Vous êtes sur RTL.
Et pour RTL Soir, c'est à vous Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. À la une, les pompistes sous pression. Les distributeurs pétroliers avaient rendez-vous tout à l'heure à Bercy avec Bruno Le Maire et François de Rugy. Et les géants des carburants se sont engagés à répercuter au jour le jour la baisse des cours du baril sur les prix à la pompe. Alors dans RTL Soir, nous serons à Bercy. À 18h20, on demandera au ministre de l'économie Bruno Le Maire si ça va suffire à calmer la colère des Français contre l'augmentation des taxes sur l'essence et sur le diesel. Bruno Le Maire, qui était ce matin à Ascoval, il nous dira donc si la scierie en redressement judiciaire est définitivement sauvée. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Jean-Claude Gaudin en mode défense à Marseille. Le bilan est désormais de 7 morts après l'effondrement de 2 bâtiments vétustes. Le maire de la ville est en première ligne. Il s'explique enfin, mais botte en touche, vous allez l'entendre. La vidéo qui a ému des centaines de milliers de personnes en cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Un petit garçon de 7 ans raconte sa souffrance et son envie d'en finir avec la vie. RTL l'a rencontré. À suivre également, le PSG empêtré dans une affaire de fichage ethnique, la fin de la validation par SMS pour les achats sur Internet et l'événement ciné de la semaine, l'avant-première mondiale à Paris du nouvel épisode des Animaux Fantastiques, les cousins d'Harry Potter.
À 18h25, direction les coulisses de l'actualité, route du Rhum, la grande hécatombe. À l'image d'Armel Le Cléache, de nombreux skippers ont dû abandonner. D'autres se sont mis à l'abri. On vous amène en coulisses au cœur de la tempête. 18h30, Alain Duhamel, ce soir, Donald Trump, un ami qui ne vous veut pas du bien. 18h35, dans l'enfer des tranchées, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, les Archives nationales organisent une grande collecte de lettres, dessins, photos, journaux intimes des poilus, plongés dans 14-18 avec la directrice des archives Françoise Bana-Berger. 19h15-20h, on refera le monde. La météo, Peggy Broche, demain matin, on attend des averses orageuses dans le sud-est.
Oui, Marc-Olivier, alors attention au cumul de pluie, notamment du Languedoc à l'Ardèche. Cet axe pluvieux remonte jusqu'à la Franche-Comté. Ailleurs, le temps sera sec mais nuageux, sauf du Nord-Pas-de-Calais au nord de l'Auvergne, où là, il y aura déjà de belles éclaircies le matin. Elles s'étendront jusqu'aux Pyrénées l'après-midi et de part et d'autre, le ciel restera chargé avec encore de fortes pluies sur les Bouches-du-Rhône, le Var. Et attention, on a une perturbation qui arrive sur la Bretagne qui va donner beaucoup de vent, côté température de 12 à 16 degrés.
Très bien, et à tout à l'heure, Peggy.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
En partant sur les traces de la Grande Guerre, Emmanuel Macron n'imaginait sans doute pas qu'il serait à ce point, Isabelle, en première ligne et sur plusieurs fronts.
Oui, le chef de l'État poursuit son itinérance mémorielle aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Ce matin à Maubeuge, il est revenu sur la controverse au sujet de l'hommage au maréchal Pétain. Il a dénoncé la boîte à folie des polémiques inutiles. Selon lui, il n'a jamais été question d'une célébration individuelle. Le président se trouvait alors en visite dans une usine Renault. Normalement, tout le monde aurait dû se réjouir d'une bonne nouvelle. Le constructeur va investir 450 millions d'euros sur le site pour produire de nouveaux véhicules utilitaires. À la clé, 200 embauches l'année prochaine. Mais le discours du chef de l'État a été finalement noyé dans le chahut, Olivier Bost.
Oui, c'est la tournée des ennuis. De ville en ville, ils poursuivent Emmanuel Macron. À Maubeuge, dans l'usine Renault où est fabriquée la Kangoo, le chef de l'État prend la parole après l'annonce de bonnes nouvelles pour le site.
Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, cher Carlos Ghosn, cher Thierry, cher Mouna. Bonjour monsieur, vous n'êtes pas apparemment majoritaire.
Au milieu des cadres de l'usine, l'homme qui a décidé de ne pas laisser parler le président, c'est Samuel Beauvois, syndicaliste sud.
Monsieur, on n'est pas là pour faire le show, on est là ensemble pour essayer de réussir. On est d'accord?
Mais on réussit sans vous, monsieur Macron. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre de salariés, vous êtes en train de prendre de retraités aujourd'hui, monsieur Macron. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur Macron.
Oh, mais là, vous êtes ridicule. Mais là, vous êtes ridicule, monsieur, pardon de vous le dire. Je peux y aller?
Allez-y.
Aujourd'hui, oui, on a une augmentation du carburant, vous avez raison.
Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron se rapproche du syndicaliste. Pour le calmer, il lui propose dans l'oreille de rencontrer le chef de l'État en aparté, juste après le discours. Mais après cette entrevue, Samuel Beauvois est encore remonté.
J'invite les salariés à se rendre à tous les déplacements de M. Macron et de faire la même chose que moi. Pas laisser M. Macron finir ses discours, mais de le couper.
La tournée d'Emmanuel Macron s'est bel et bien transformée en chemin de croix.
Olivier Bost du service politique de RTL. Depuis le début de la semaine, on l'a compris, hein, c'est donc le sujet qui cristallise toutes les colères. La hausse du prix des carburants.
Le carburant, c'est pas bibi, disait Emmanuel Macron en début de semaine. Selon le chef de l'État, l'essentiel de la hausse est lié à l'augmentation du prix du baril. Mais depuis quelques semaines, en fait, les cours repartent à la baisse et pourtant, ça ne se voit pas à la pompe. Le ministre de l'Économie a donc réuni les distributeurs à Bercy cet après-midi et ils ont pris des engagements, Éric Vanier.
Oui, ça presse. Il y a toujours un décalage d'une quinzaine de jours entre la baisse des cours du pétrole et la baisse des prix à la pompe. Mais là, le gouvernement demande aux compagnies pétrolières d'accélérer leur rythme, de répercuter tout de suite dans les stations-service au jour le jour le repli du prix du baril, avec l'espoir que ce soit visible et significatif avant le 17 novembre, jour de manifestation. Alors, les distributeurs sont-ils prêts à jouer le jeu? Ils ont écouté, ils n'ont pas dit non, mais on les a sentis quand même plutôt réservés, car ils estiment avoir déjà fait des efforts. Je vous propose d'écouter la réponse du président de l'Union française de l'industrie pétrolière, Francis Dussault, à la sortie de cette réunion avec les ministres.
C'était un bon échange parce qu'on lui a expliqué que c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Vous savez aussi bien que moi que les prix en France des carburants sont établis par les grandes surfaces, parce que c'est un produit d'appel pour les grandes surfaces. Au jour le jour, on répercute et nous, on s'est aperçu assez rapidement que pour continuer à vendre des volumes de carburant, il fallait s'aligner à un centime ou deux près sur le prix de la grande surface voisine.
Dans sous-entendu, donc, on fait déjà le maximum de ce que l'on peut faire.
Merci Eric Vanier. On en reparle donc avec Bruno Le Maire à 18h20. C'est la journée contre le harcèlement et une vidéo a ému et indigné les internautes.
Un film de moins d'une minute diffusé avant-hier soir sur Twitter, mais qui depuis a été visionné 500 000 de fois. On y voit un enfant de 7 ans qui affirme être frappé et harcelé par un camarade. Il finit par fondre en larmes. « Je veux rejoindre le bon Dieu pour toujours », dit-il. Et lui, qu'il arrête de me taper. Julien Fautra, vous êtes rendu dans l'Aisne pour RTL et vous avez rencontré ce petit garçon et sa mère.
Oui, le petit garçon en classe de CE1, accompagné de sa maman qui a porté plainte, explique à RTL pourquoi il a eu des mots si durs dans cette vidéo.
Pour plus qu'il me tape, il n'arrête pas de me taper, faire des coups de poing, des coups de pied, pour plus qu'il me fasse du mal.
Ça a recommencé encore lundi, il a encore eu des coups. Donc à chaque fois, c'est intervention à l'école, c'est pas une, deux, trois, c'est répéter, répéter, répéter. Le matin, je suis obligée de lui dire « on t'aime fort Charlie, sois fort Charlie, papa, maman t'aime, papy, mamie, tout le monde ». En fait, c'est un bourrage de crâne pour qu'il comprenne qu'on est là derrière lui. Lundi, ça a recommencé alors qu'il avait été une semaine sans aller à l'école. Parce que les gendarmes m'ont dit de ne pas le mettre à l'école. Déjà depuis l'année dernière, ça ne fait pas de maintenant, ça fait un an que ça dure. Et il est rentré une fois manteau déchiré, les lacets arrachés, et il disait rien, 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 jusqu'au jour où j'ai vu qu'il avait des bleus. Moi-même, je me sens impuissante, je dis qu'est-ce que je dois faire?
L'enquête est en cours, les gendarmes entendent toutes les parties pour déterminer s'il doit y avoir des suites judiciaires. Au diocèse, comme à l'Institut Notre-Dame, l'école privée des enfants, on refuse tout commentaire.
Pour RTL, Julien Fautra.
À Tours, le père d'une jeune députée En Marche, ses oncles et son frère ont été condamnés à des peines de 18 mois à 2 ans et demi de prison ferme. Ils sont accusés de l'avoir enlevée et séquestrée l'été dernier après avoir tenté de la marier de force au fils d'un notable algérien.
Nous serons à Tours dans le journal de 19h, mais avant ça, direction maintenant Marseille, où Jean-Claude Gaudin s'explique. J'allais dire enfin.
Les recherches ont repris aujourd'hui, 3 jours après l'effondrement d'immeubles vétustes et le bilan s'est alourdi à 7 morts et toujours un disparu. Ces fouilles avaient été interrompues le temps de détruire 2 autres bâtiments qui présentaient un risque. La polémique, elle, ne retombe pas. À Marseille, le logement indigne concerne plus de 40 000 foyers et bien sûr, le maire de la ville est montré du doigt. Il était urgent qu'il s'exprime, Étienne Baudu.
Oui, au cours d'une conférence de presse, et Jean-Claude Gaudin a d'abord évacué toute idée de démissionner en réponse à une question qui lui était posée. Il ne regrette pas non plus ses choix en matière d'aménagement, puis il a énuméré les actions de rénovation et de lutte contre l'habitat indigne que la ville a engagées et les sommes englouties.
Depuis 2005, la seule ville de Marseille a engagé plus de 200 millions d'euros, dont 110 au seul titre de l'ANRU, 35 de l'éradication de l'habitat indigne et 28 du logement locataire social.
Alors, il a également reconnu que le chantier restait immense. Marie est architecte et membre de l'association de la peine. Les propos du maire n'ont pas apaisé sa colère.
C'est une honte. Il y a des morts. Les morts aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Mais il y a des morts aussi dans d'autres quartiers de Marseille qui meurent justement parce qu'ils vivent dans des logements insalubres depuis 10 ans, qui réclament du relogement et qu'il ne se passe rien. C'est un véritable scandale et que la mairie en plus ne dise pas qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle a besoin de l'État pour l'aider financièrement. Parce que l'argent, il y en a à Marseille, on le sait. On rénove le stade Vélodrome avec l'argent des Marseillais. C'est pas une priorité. On fait des hôtels de luxe, c'est pas une priorité. Donc ça suffit maintenant.
Et demain est organisée une marche blanche et le quotidien La Marseillaise lance un appel à témoigner avec un hashtag balance ton taudis.
Merci Étienne Baudu, Jean-Claude Gaudin, invité tout à l'heure d'RTL Grand Soir à 22h.
À l'étranger, une fusillade dans un bar discothèque de Californie a fait 12 morts ce matin. Le tireur s'est suicidé. Il s'agissait d'un ancien marine de 28 ans.